dog.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition 161, premier épisode de l'an 2018. Notre sauveur Lord Vader lui-même pour Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais je vais vous admettre qu'aujourd'hui, on va faire une émission qui me fait plus que plaisir. D'abord et avant tout, je vais mentionner que le projet de l'émission nous vient d'abord et avant tout de Mathieu Ligoyette, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui cause pneumonie. C'est assez terrible, puisque la discussion aurait été fantastique avec lui, mais on a quand même la chance d'avoir plein de personnes alitées pertinentes pour en parler. Donc, Chris Chauncey.
Bonjour.
Salut, Elisabeth Simpson.
Salut.
Oh, mauvais micro. Qu'est-ce que c'est?
Allô?
Bon, je suis fourré.
Ça va être réglé au montage, c'est correct.
Qu'est-ce que je fais? J'ai plein de slides. Je vais tout allumer, puis vous allez tous parler en même temps.
Je peux mettre deux micros pour faire comme si j'étais dans une conférence de presse?
Oui. Oui.
Non, je ne ferai pas ça.
Viser comme il faut pour m'assurer que la qualité de ta voix sort à l'égal de la pertinence de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Régis, bonjour.
Quel grand parleur, ça, Jean-Michel.
Salut.
Excuse-moi, répète-moi le nom de famille, je suis désolé.
Ouais, il est compliqué. Régis Pierre Fieux.
Merci.
Le prénom, c'est Régis Pierre, le nom de famille, c'est Fieux. C'est pas courant, ouais.
Ok, ok. Voilà qui...
Mes parents ont eu une sale idée, ouais.
un nouveau, en fait, bienvenue d'être le premier nouvel invité, nouveau participant, nouvel ajout à l'équipe pour 2018.
Ça fait plaisir.
Et Megan Bédard, ma personne préférée au monde.
Allô.
Comment tu vas?
Ça va bien.
J'ai ma caméra sur toi, je te le dis.
Ok, mais je sais, je la vois, là.
Donc, aujourd'hui, à l'émission, et là, je vais un peu reprendre les paroles de Mathieu lors de notre rencontre à la librairie Millennium, entouré de Boris, qui est un autre collaborateur à l'émission. En fait, je n'avais pas vu Last Jedi à ce moment-là, et Mathieu était comme... C'est intéressant ce qui est en train de se produire autour du phénomène du huitième opus de Star Wars. C'est qu'il y a des gens qui sont très bien placés dans le camp contre, des gens qui sont très bien placés dans le camp pour. Et il n'y a pas vraiment de volonté, non pas de volonté de conversation, mais il n'y a pas de conversion qui se fait. Il n'y a pas de chicane. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est le fait qu'il me le mentionne qui me fait réaliser qu'il n'y a pas de chicane. Les gens ne se sont pas fâchés. Un contre l'autre. Pas tant que ça. Je parle vraiment, là, les camps opposés. Il y a personne qui a pris la défense ou qui a tenté de démolir. Bon, juste qu'il parlait des YouTubers qui vraiment font beaucoup de vidéos pour...
Il y a quand même une pétition qui a été écrite dans l'objectif de sortir le huitième opus du canon, carrément.
C'est pas des prises de bec. C'est comme des initiatives loyalistes.
C'est juste polarisé, puis il n'y a pas de bataille dans le milieu. Là. Une espèce de guerre froide autour de la
bataille. C'est drôle parce que je fais beaucoup référence lorsque je parle du huitième opus à Rogue One. Je trouve que c'est un film... Le huitième fait beaucoup écho à Rogue One. Et... c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats autour de Rogue One, autour de comme la qualité du film. Il y a eu beaucoup de débats autour de des propos justement anti-Trump du réalisateur, dis-je, qui a eu une invitation à boycotter l'œuvre à cause de ça. Mais sinon, récemment, les gens commencent à dire j'aime pas The Last Jedi ou je l'aime contrairement ou comme Rogue One. Des commentaires que j'avais peu entendus il y a 2 ans, j'ai l'impression, ou l'année dernière, je ne sais plus, je perds le fil du temps. mais oui, j'ai l'impression que c'est des films qui ont plus polarisé, qui se font écho, alors que mettons, le septième opus faisait plus écho, justement, ben on en a parlé.
C'est la même chose que l'épisode
4, exactement.
Oui, effectivement, ouais. Mais en même temps, c'est ce que... Et aussi, l'autre truc que je trouvais intéressant, c'est la politesse. Mm-hmm. Moi, j'ai rien. Je l'ai vu tard. Je l'ai vu, je pense, une dizaine, même peut-être quinzaine de jours suite à la sortie. La politesse que tous les gens, autant les gens qui ont aimé, qui ont détesté, la politesse qui a été démontrée de ne rien dire.
Mais ça, il y avait ça avec Force Awakens, là. C'était assez évident qu'il ne fallait pas que le spoiler sorte. Mais il y a comme ce sens de respect-là. On dirait qu'il y a un embargo sur toutes les punches à peu près 2 mois après que le film soit sorti, parce que les spoilers sont toujours pas techniquement sortis dans les grands espaces. Il y a des articles avec des spoiler alerts en haut. Puis, il y a encore ce respect-là où, OK, oui, les spoilers de Force Awakens sont sortis, là, ça fait 2 ans.
Oh, oui, exactement.
Comme, si vous l'avez pas vu, ben tant pis. Là. Mais,
mais on vit quand même à une époque un peu d'immaturité où, comme des gens se font des t-shirts. Dumbledore dies at page 636. C'est des trucs comme ça que j'étais surpris de voir du camp des personnes qui n'ont pas aimé le film, quand même conserver une espèce de, comme, regarde, un respect, un cessez-le-feu extrêmement intéressant et important, je dirais, en culture populaire, de, regarde, je ne l'ai pas aimé, c'est correct.
Mais je ne spoilerai pas pour toi.
C'est
non
ça,
plus.
Puis je n'ai pas entendu non plus personnes qui ont adorer ça, qui sont mis à vouloir imposer leur adoration du film sur des gens. Puis c'est là où Mathieu en est venu dans notre conversation, c'est qu'il disait c'est le moment parfait pour une discussion.
Ben, si je peux me permettre, à la lumière de la discussion de ce matin, en fait, qu'on a eu aux Amazons, désolé pour les auditrices et auditeurs assidus de choc.ca, il y a peut-être eu de la répétition aujourd'hui autour de Last Jedi, mais c'est que la plupart des points qui sont soulevés pour signifier si on a trouvé que le film valait la peine, était un bon film, ou ah ben ça c'est un point qui est négatif, qui brime mon expérience de spectatrice, spectateur, c'était souvent les mêmes points. Fait qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi avec tout ce que le film nous proposait. Je crois que ça l'a beaucoup joué sur justement le respect, parce que si moi je te dis que tel aspect, je trouve que ça a été un aspect que j'ai trouvé positif puis que j'ai apprécié, quelqu'un va dire mais c'est pour exactement la même raison que moi j'ai pas aimé ça. Alors qui a raison, qui a tort, ça devient très difficile à justifier et ça finit le débat souvent là.
Ben non, en fait non, c'est pas à ce moment-là que le débat, ben en fait il devrait pas avoir débat, il devrait avoir échange. Puis c'est là-dessus que ça devient intéressant de prendre l'heure, le 53 minutes qui nous reste, pour construire cet échange-là, parce que j'ai l'impression que plus que plusieurs autres films qui émergent, plusieurs autres blockbusters qui émergent, ce film-là, quand on en parle, on finit par parler beaucoup plus de nous que de n'importe quoi d'autre. T'sais, moi je sais que au début c'était un peu baveux, mais là, c'est devenu vraiment comme, pour moi, un signe personnel. T'sais. Kylo Ren, à mon avis, est le meilleur personnage de Star Wars.
Excusez, j'ai changé de micro parce qu'il sonne vraiment mieux, celui-là. C'est pas ce que tu disais de Force Awakens déjà?
Oui.
Ouais, c'est ça. Donc, t'es resté sur la même position.
Mais ça me cimente, moi. C'est réglé. C'est comme.
Mais c'est ce qui est aussi la personnalité de Kylo Ren, c'est vraiment confirmé dans The Last Jedi. C'était un peu ambigu dans Force Awakens, au sens où il commence, puis c'est un personnage imposant, qui fait un peu peur, surtout dans la première scène. Puis là, on voit de plus en plus qu'il est juste un adolescent choqué, qui fait des tantrums, puis qui est un peu dorky.
Giant Space Wizard Man Baby.
Voilà.
Jean-Michel, j'ai une question. Moi, est-ce qu'on a le droit de spoiler là? Parce que c'est
pour échanger.
Ouais, ben, exactement. Pour être sûr. Okay.
Mais merci beaucoup de le mentionner parce que bon, il faut quand même qu'on place.
Spoilers.
On va le faire, oui, exactement.
Divulgacheur.
Divulgacheur. On est pas contraint de l'utiliser.
Non, on est encore en train de l'utiliser de façon ironique pour dire à quel point.
C'est rigolo. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser de façon ironique la journée où j'ai appris que ça existait.
Ah oui,
ce mot-là.
C'est
excellent, divulgacheur.
Je trouve que Kylo Ren dans le 8 prend une autre dimension quand on voit ses pectoraux. Oui. C'est vraiment quelque chose là. Là, il fait peur, là, je trouve.
Ben, en fait, ça a été une source de conversation entre ma blonde et moi parce qu'elle se demandait. Non, mais ben, moi, je veux dire, je l'ai toujours trouvé beefy, puis c'est super. Là, je suis comme. Amène-moi le bœuf. Mais encore, c'est un truc que j'ai l'impression que c'était juste une façon de démontrer qu'il pouvait contacter, il pouvait se contacter et être connecté à n'importe quel moment. Il est pris au dépourvu, c'est à peu près.
Incluant dans l'intimité où on est en chest avec ses pantalons montés vraiment haut.
C'est ça. Puis c'est pas une affaire de comme de, en fait, ça, ça le déculpabilisait aussi d'être la source de ça, parce qu'il n'aurait pas entamé cette connexion-là à ce moment-là. Il est en train de se changer, puis là, c'est là où tu constates que c'est pas lui qui est la source de cette... c'est pas lui qui est la pleure dans cet appel téléphonique cosmique-là.
Mais la scène n'est pas anodine, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on est face à une scène semi-érotique ou...
Non.
Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre à ce moment précis. Hein.
Moi, je trouve vraiment que le huitième épisode est excellent pour ça, de par la, l'espèce d'ambiguïté que, ben, nous, on peut se faire toutes nos théories qu'on souhaite sur qui va finir avec qui, mais au final, je veux dire, les relations se basent pas uniquement sur une finalité pour que tout le monde à la fin ait un chum, une blonde ou...
Non, il n'y a pas de pairing placé.
Non, c'est ça. Puis j'ai pas l'impression que, tu sais, on en parlait justement ce matin du fameux, mettons, le baiser que s'échange Rose et Finn, qui pourrait être représentatif de quelque chose, ou pourrait simplement être une espèce de baiser de revoir à la Thelma et Louise, là, quelque chose de pur, quelque chose de, tu sais, dans la détresse, je t'échange un dernier moment de solidarité. Il y en a beaucoup qui disent que probablement que Ray et Poe vont finir ensemble de par des regards qui se seraient jetés à la fin du film, mais c'est comme, moi je serais très satisfaite si à la fin personne ne tombait en couple, surtout si le neuvième opus se déroule juste après de Last Jedi. Si ça se déroule 10 ans plus tard, puis qu'on nous dit, ben, il y a des choses qui se sont développées, puis finalement, Ray et Poe sont ensemble, Finn et Rose seraient ensemble, peu importe. Mais comme je l'ai déjà dit, puis comme beaucoup de fans l'ont déjà nommé, la chose la plus dommageable pour la série, ou la chose la plus décevante qui pourrait arriver, ça serait un triangle amoureux entre Finn, Rose et Ray. Mm-hmm. On perdrait du temps, ça serait pas intéressant, puis ça serait encore une fois de dire que, bon, ben, on va laisser deux filles se battre pour un gars, puis moi, je trouverais ça vraiment décevant. Donc,
De toute façon, pour le pairing puis le shipping, y a des fanfiction pour ça. Fait qu'on est, ouais, voilà. On est gâtés de ce côté-là.
Et est-ce que Finn et Rose, c'est pas déjà une perte de temps? Là? Je lance les hostilités.
Mais en même temps, c'est une des thèses du film, c'est aussi... amusez-vous avec vos interprétations. Nous, oui. On a une histoire à raconter.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées sans réponse, parce que c'est le plaisir des fans, de toute façon, de pouvoir en discuter. Non.
Sans réponse ou avec des réponses. Puis là, je prends le camp des personnes qui n'ont pas aimé le film ou qui ont trouvé qu'il y avait des problématiques face à la révélation qui est Snoke, face à la révélation de la lignée.
Mais on ne sait toujours pas qui est Snoke, techniquement.
Ouais, mais là, tu sais, tout le monde est comme, OK, fait que c'était un anti-punch.
Mais c'est pas parce que le personnage, spoilers, il est mort qu'il n'y aura pas une influence dans l'avenir de la franchise, par exemple.
Je le souhaite, parce que je trouve que c'est un personnage qui a tellement été bien monté dans le 7 puis qui a tellement rapidement été mis de côté dans
le
8.
On peut-tu parler de Phasma dans ce cas-là?
Oui, aussi.
Ouais, mais Phasma, il reste un acte. Je suis pas mal certain
que j'en dis ça. Tu penses qu'elle est encore vivante?
Ouais, moi aussi, je pense.
Elle en a pris plein la gueule, quand même.
C'est drôle, c'est un trop, puis là, j'aime
dans
encore...
Star Wars, les gens qui meurent par le feu ne meurent jamais.
C'est ça. Je rajoute un espèce de petit trop disneyen aussi. Disney ne tue personne. Ou du moins, quand tu prends les films de Disney, tous les vilains disparaissent en passant dans un nuage de fumée, en tombant dans un nuage de fumée, que ce soit Notre-Dame de Paris, le Roi Lion, et tout. Puis ça, c'est vraiment un
Phasma, Frollo, même combat. Mais...
C'est ça. Moi, je pense que Phasma, tu peux pas avoir fait tout ça pour...
Mais Frollo, il meurt à la fin. C'est implicite. Frollo, il est décédé. Donc, ça m'étonnerait pas que... Tu sais, je veux dire...
En même temps, Frollo, c'est parce que c'est un livre. Ouais, c'est Notre-Dame comme... de Paris.
Oui, non, je sais. Puis, mais Frollo meurt pas dans le livre, mais ils l'ont tué dans le film.
OK.
Mais
ils l'ont pas tué dans le film. Ils l'ont fait tomber en bas
dans la lave, tu sais.
Ouais.
La lave, ouais, ne tue pas non plus, parce qu'Anakin est vivant.
Donc. Exactement, ouais. La lave est très...
Donc, les propriétés du feu et de la lave dans ce
sens. C'est vraiment... Ouais, c'est...
Mais on s'est aussi entendu ce matin que les lois de la physique étaient... très prise
on peut parler de l'interprétation, on peut parler de l'IA,
ouais.
Donc il faut pas s'arrêter non plus à ça.
Moi, pour juste pour mettre carte sur table, j'ai vraiment apprécié le film. Le seul bout qui m'a fait sourciller, c'est justement quand Leia de nulle part est soudainement comme force pull la porte, puis
c'est une des scènes les pires de l'histoire du cinéma.
Je me rappelle le collective gasp qui s'est passé dans le cinéma.
Pareil.
Je pense même qu'il y a des gens qui ont dit what the fuck. C'était vraiment surprenant à quel point tout le monde était s'attendait absolument pas à ce genre de fois-là. D'autant plus que vu que Carrie Fisher est morte, je trouvais que c'était la meilleure opportunité pour eux de probablement passer, tu sais, de bien finir la saga de Leia, mais aussi de bien passer aussi peut-être au prochain personnage qui prendrait le rôle, qui est d'ailleurs la Commander qui arrive, Rodo, c'est ça. Super personnage, vraiment super empowerment, puis genre j'avais trouvé déjà, j'étais comme, ok cool, ça c'est Leia numéro 2, puis là finalement, non pas vraiment.
Non,
fait que j'imagine que dans la trame initiale qui se sont construits pour cette trilogie-là, Leia doit avoir un immense rôle dans le film qui s'en vient. Sinon, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris l'opportunité alors qu'elle s'est présentée.
Mais parce que, en tout cas, moi, en tant que fan, j'ai trouvé ça tellement agréable de voir autant de Luke et autant de Leia. Là, ça m'a vraiment fait du bien, puis j'aurais trouvé ça triste, au contraire, que Leia parte comme ça dans un burst de... Tu sais, on le savait que Harrison Ford... Ben, on savait, on a su que Harrison Ford voulait pas continuer la franchise, puis c'est comme, si tu ramènes, tu me tues. Fait que, tu sais, ils ont donné des petits moments bonbons dans le premier, puis ensuite, ben, ils l'ont tué. Mais là... Je pense que Carrie Fisher aurait continué, puis on lui a donné un avenir. T'sais, là, la question, c'est est-ce que ça va être hors écran? Est-ce qu'ils vont faire une affaire en CGI où elle va mourir au début du 9? Est-ce que on va juste dire comme, ben, qu'elle est morte entre les deux, ce qui serait vraiment plate? Mais tu sais, comme, ou est-ce qu'on va juste dire, ben, Leia, elle est là, on la voit juste pas à l'écran, mais Leia existe.
Peut-être que l'entièreté de ces scènes sont déjà filmées pour le dernier épisode, puis on sait pas. Ah, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait, on le sait pas.
C'est dommage parce que sa mort aurait été tragique, sachant que c'est une espèce de dommage collatéral de la guerre. Mm-hmm. Et ça fait genre, un personnage ultra important meurt à cause d'un dommage collatéral, même pas provoqué par son fils.
Ouais. Ouais, c'est vrai,
j'aurais trouvé que c'était une mort parfaite là, mais...
Mais je trouvais ça aussi, comme c'était une belle méta qui se construisait entre justement la mort de l'actrice et la mort du personnage aussi pour ce film-là. Mais bon, c'est correct aussi qu'elle soit vivante, évidemment. Il y a une petite partie de moi qui est content quand même. C'est un personnage cool.
Mais selon ce qu'ils font avec les effets spéciaux dans le 9.
Ouais, exact.
Il y avait quelque chose aussi, la première personne qu'on voit à l'écran dans Last Jedi, c'est Billy Lord. C'est sa fille.
Oui.
Puis... ça a l'air qu'elle est dans Force Awakens. Je me rappelle pas de l'avoir vue.
Elle doit être comme...
Elle a comme une ou deux lignes, là, ouais, c'est ça.
C'est la fille avec les petits chignons en arrière de la tête.
Ouais, oui. C'est une des dernières, parce qu'il reste plus grand monde à la fin, là, quand ils sont dans la caverne. Elle y est encore. Puis je trouvais que s'il y a, comme tu dis, une espèce de possibilité ou une volonté de faire une passation, ben c'est elle. Je suis pas mal, moi, personnellement, peut-être dans des aspirations, là, pas vraiment un truc intellectuel, là, j'aimerais ça que ça soit la fille.
Ça serait très cool.
De Carrie Fisher qui continue cette mission-là.
Ouais.
Puis c'est pour ça que moi aussi, ben en même temps, j'ai pas été tant déçu qu'elle survive. Mais.
Mais c'est aussi la manière qu'elle a survécu.
C'est la scène qui était horrible.
Ouais, c'est ça.
C'était mal filmé.
Mais pour dire qu'est-ce que je voulais dire tantôt, c'est que peut-être qu'on peut le voir juste d'un point de vue que c'était vraiment bizarre, mais il y avait une étrangeté quand même assez fascinante où, justement, on était tout « what the fuck? » Mais il y avait comme une espèce d'étrangeté magique qui ramène un peu tout cet imaginaire-là, parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui essaient de définir c'est quoi la force dans The Last Jedi. Puis là, on essaie de rétablir ce mysticisme-là autour de la force, puis de ramener de la magie dans quelque chose qu'on voulait plus de science-fiction dans les prequels, par exemple. Donc, moi, j'associe peut-être plus étranger de cette scène-là, justement, c'était vraiment bizarre. Là. Moi, personnellement, pour full disclosure, j'ai pas tellement apprécié le film, mais je le trouve super intéressant pour beaucoup de choses.
Ah, j'ai quelqu'un avec moi.
Mais comme je pourrais pas appuyer tous tes arguments, ouais, parce que je suis pas comme ça.
Mais la réalisation de la scène, moi, c'est ça le problème. C'est surtout j'ai vraiment eu l'impression de voir Mary Poppins, quoi. J'ai vraiment.
Ouais,
c'était horrible, quoi. Vraiment la façon de le filmer.
Mais j'avais pas une réaction négative, juste une fascination qui provoque beaucoup de questionnements, comme la plupart du film. Le film est totalement confus, il fait pas beaucoup de sens, la musique, je l'ai dit ce matin, ne supporte pas du tout la trame narrative, il y a plein de choses qui sont pas essentielles, mais il y a beaucoup de choses que The Last Jedi fait qui nous fait repenser à la franchise au complet,
oui,
puis
qui
nous force à repenser tous les schémas, puis tous les clichés qui se sont accumulés depuis le début de Star Wars. Puis ça, c'est pour ça que je trouve The Last Jedi très intéressant.
Ouais, je lui reproche pas ses tentatives. Ouais. Il y a plein de tentatives, mais je pense qu'il y en a plein qui sont les échecs. C'est juste ça.
Ouais, c'est ça. Mais...
Dont Snoke, dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est une catastrophe aussi. Mais...
Ouais. Au niveau de la force aussi, la scène où les livres sont brûlés, avec Yoda aussi.
Les livres sont pas brûlés.
Les livres sont pas brûlés au final.
Ouais.
Mais c'est vrai. Aussi,
ça m'a, ouais,
cette scène-là, elle revient un peu à ce que tu dis aussi, de comme on essaie un peu de réinventer ce qu'est la force mystique au lieu d'essayer de l'expliquer. On se dit, non, la force, ouais. On n'a pas besoin de ces livres-là. Non, la force, tu sais, n'importe qui peut l'avoir.
C'est pas parce qu'on a théorisé, en fait, cette spiritualité-là que si on arrêtait de... Parce que c'est non seulement une spiritualité, mais c'est une spiritualité qui existe, tu sais, dans le fond, c'est pas juste on y croit, c'est pas juste une croyance, tu sais, on a des c'est comme ça qu'on l'a expliqué, dans des livres, puis c'est comme ça qu'on a expliqué les forces de l'univers, puis genre, mais dans le fond, enlève les livres, la force reste là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas vrai que l'équilibre entre les matières vont disparaître, donc tu peux bien brûler les livres si tu veux, les gens vont rester avec la force, midi-chlorien ou non, à l'intérieur, oui, puis ça. Il va rester des fois sensitive.
Avec ou sans apprentissage aussi, parce que les personnages qui sont le plus forts avec la force dans la nouvelle trilogie, et là, c'est là que la plupart des fans qui s'attachent aux concepts qui ont été élaborés avant, c'est que Rey n'a pas eu de formation de mm-hmm. Jedi, et la scène finale avec l'enfant qui utilise la force alors que probablement il n'a jamais, avec le balai, c'est que maintenant, comme tu l'as dit, Isabelle, ce matin, j'ai vraiment aimé ça,
c'est Marc-Christine qui a dit la démocratisation de la force.
Ouais, ouais. Mais Léa aussi, c'est un exemple de ça.
Ben oui.
Tu sais, Léa, c'est une personne qui n'est pas entraînée, qui au final fait une démonstration de pouvoir plus forte que quelqu'un qui le serait.
Après, on peut supposer qu'il y a eu une ellipse, que peut-être Luke l'a entraîné. Il y a vraiment du temps qui s'est passé. On peut mm-hmm. peut-être imaginer, mais le gamin, on peut pas imaginer.
Non, c'est ça. Puis
comment ça, on peut s'imaginer que Luke a entraîné qui? A entraîné Rey?
Léa.
Non, mais Léa, elle avait pas d'entraînement lorsqu'elle a fait tous ses gestes héroïques. Elle avait même pas encore rencontré son frère.
Non, pour survivre. On parle pour survivre.
Oh, dans l'espace!
Pour l'exécution, qu'est-ce qu'elle fait dans la Jedi?
Mais tous les gestes qu'elle a posés dans la première trilogie...
Ça c'est du pur réel.
Ça, c'est du pur réel.
Le sérum, la connexion avec Luke, on va aller chercher, je sais qu'il est là. Exact. Tout ça, donc...
Une autre thèse aussi, c'est que Léa a toujours été forte avec la force, mais pas dans la façon... Pas la lifting rock force. Là. Mm. C'est plus une force qui est justement une force de leader, une force comme rassembleuse qui peut comme... justement rassembler les gens
de conviction
mm-hmm. et aussi de connexion. Donc c'est une autre façon de voir la force comme pas nécessairement quelque chose qui fait bouger les roches ou qui fait utiliser un lightsaber, mais quelque chose qui rassemble les gens et qui canalise ces énergies là pour quelque chose de collectif.
Puis de toute façon ça aurait du sens si on se dit que Anakin est un produit de la force, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il est ce n'est qu'un amas de force qui s'est ramassé à l'intérieur d'une personne. Et bon, ben là, si on se dit que c'est transmissible génétiquement, ces capacités-là, tout avec la théorie aussi que la grossesse de Padmé a été influencée par le sénateur Palpatine, le chancelier Palpatine à ce moment-là. Mm-hmm. S'il y aurait de la logique de dire que ces enfants-là, Luke et Léa, sont très, très, très avec la force, là, justement. Tout ça pourrait avoir du sens, mais tu sais, en même temps, tout ça ne sort que de théories de fans, puis là, on peut dire un peu ce qu'on veut, là, tu sais, justement. À moins qu'ils nous prennent vraiment par la main, puis qu'ils nous l'expliquent dans un side story, dans une bande dessinée, où là, on apprend qu'il y a des Jedi qui volaient, puis ben, it's a thing, là, tu sais.
Je me demande s'il y avait vraiment une volonté de réalisation, puis d'écriture pour que on redonne le contrôle de la force, si on veut, au réalisateur, puis on essaie de dire aux spectateurs, puis aux personnes qui ont théorisé tout ce temps-là, arrêtez, là, vous comprenez pas c'est quoi la force, Leia peut faire ça, Luke qui comprend rien, puis là soudainement t'es comme, ok, ouais, peut-être qu'on connaissait pas tout finalement, t'sais, peut-être que c'est encore plus grand qu'on pensait, puis peut-être c'est autre chose qu'on pensait, puis là, ça redonne beaucoup de jeu à la réalisation future de ces films-là.
Moi, je m'allie avec toi là-dessus. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un moment où Disney, LucasArts, toute cette gang-là a fait comme, regarde, on va vraiment brasser pour que vous fassiez comme, tu sais, je veux dire, moi, le premier moment de brassage, c'est quand Luke envoie le lightsaber. Mm-hmm. Le deuxième moment de brassage, c'est quand il sert un grand verre de lait, là.
Ça,
je veux
dire, sérieusement. Mais ça, c'est un rappel à l'épisode 4, parce qu'il passe son temps à boire du lait vert bizarre dans l'épisode 4.
Merci pour ça, parce que sérieusement, moi, c'est comme un moment que je suis sorti de la salle.
Ça veut dire que le lait, sa tante qui lui sert du lait, il était vert.
Il est vert, c'est la façon de le faire, bien sûr.
Exactement, la façon de faire est un espèce de comme... T'es dans notre cours maintenant. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mm-hmm. Là, t'es juste comme, quoi, tu vas me faire voir ça?
J'ai lu le commentaire d'un gars sur Reddit. J'étais mort de rire. Il a dit, j'ai attendu 30 ans pour voir Luke Skywalker traire un alien.
Ben oui! Puis en même temps, c'est ça. Il y a comme une espèce de... Cette franchise est à nous. Mais c'est drôle, vous parlez énormément de façon d'essayer quelque chose et de que ça fonctionne pas, que ça soit un échec. C'est un peu le constat de Luc aussi dans le film. C'est pour ça que encore, j'aimerais beaucoup que Mathieu soit là parce que c'est des trucs que lui m'a dit, dont l'espèce de perle de sagesse qui est mystifiante pour tous les gens qui ont des personnes dans leur environnement qui n'ont pas vu L'Angela mais qui vont aller le voir. Dites-leur ce que Mathieu m'a dit. Pour un moment, tu penses que t'es dans Empire, mais tu te rends pas compte que t'es dans Return of the Jedi.
Mm.
Puis ça veut absolument rien dire, mais quand t'écoutes le film, t'es comme « Ouais, c'est exactement ça. » L'autre truc qu'il disait, c'est cette idée que on constate l'échec de l'entreprise. Luke n'est pas le héros insouillé. Luke ne réussit pas ce qu'il a essayé de faire, et ça fait de Last Jedi un métafilm. Ça, c'est, bon, je vous dis, je cite ça de Mathieu Ligoyette directement, qui en a probablement parlé avec Alexandre Fontaine-Rousseau, qui a fait la critique pour Panorama Cinéma. C'est un film qui ne raconte pas une histoire parce que le film raconte l'histoire de la franchise. C'est pas vraiment, puis c'est là où il y a véritablement des trous parce que l'histoire est pas cohérente. Chaque chose fonctionne dans le film un peu comme parabole pour tout. Puis bon, or, on, Elisabeth, tu disais, à être très enthousiasmé par le fait que le film était lisible dans le climat actuel et que tu pouvais regarder La Jedi et dire « Tu parles de ça. Tu es en train de parler de ça. Tu abordes ce thème-là. Tu abordes ce sujet-là.
Ouais. »
Chose qu'on voit pas souvent, ben, ou du moins qu'on a presque jamais vu dans les Star Wars auparavant. C'est vraiment un truc fantastique, légendaire, Space Wizards. C'est pas en train de commenter sur une administration, sur un truc, un climat social particulier.
Mais ça a des valeurs universelles qui sont atemporelles.
Hein. Oui, mais justement, il y a eu un chambranlement dans les valeurs avec justement l'arrivée de Rogue One et en plus avec The Last Jedi, on en a parlé, je ne rappelle plus si c'est en onde ou hors d'onde, mais tu sais, toute l'espèce de, on va détruire le manichéisme que représentait en fait l'espèce de grandeur qui est que les Jedi, c'est les grands gentils et les Sith, c'est les méchants, puis que justement, les méchants, c'est ceux qui essayent de briser la liberté des rebelles. On a beaucoup parlé aussi de Star Wars, pas moi, mais des gens ont parlé de Star Wars comme étant une drôle de représentation, en fait, de la vision de la résistance chez les Américains, parce que les Américains sont l'Empire, et ils se sont répétés des histoires de rebelles qui s'affranchissent d'un Empire, alors que eux, pendant ce temps-là, qui se confortait au cinéma en allant voir des films comme ça, dans les faits, l'administration faisait tout brimer tout ce que nous, en tant que spectateurs et spectatrices, on voyait comme étant des beaux exemples de, tu sais...
Ça se vend bien, la rébellion.
Ça se vend très bien, la rébellion, parce que les Américains vont dire, oui, mais on est un peuple qui est bâti sur une rébellion, on est un peuple qui s'est bâti sur une résistance. T'sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Star Wars est un film important pour les Américains, justement, pour cette représentation-là. Mais là, tu vois, on est en train de brasser des choses qui sont en train d'arriver en ce moment aux États-Unis avec Rogue One, avec justement l'utilisation de l'impérialisme, en ce moment avec le mouvement MeToo et tout l'avènement de personnages féminins forts qui dit à des hommes à répétition durant le film, arrête! Arrête! Genre, ton comportement, il est inacceptable, puis c'est pas vrai que tu vas gagner avec tes vieilles méthodes. Tes vieilles méthodes qui, on va faire des mutineries, on va faire à notre tête, on va foncer dessus avec nos... Finalement, ils foncent dessus avec leur vaisseau, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais, t'sais,
plus qu'une autre histoire, c'est le plus beau plan de l'histoire.
Oui, mais je voulais pas qu'on arrive tout de suite.
Le plan, ouais, le fond, ah oui.
Le plan est incroyable.
Mais l'histoire avant est très débile.
Moi, j'aimais bien quand il lançait des bombes sur les vaisseaux, puis ça me faisait juste penser à la parodie de Family Guy où il dit « Ah, on a quatre des cinq personnages principaux à bord, on devrait être correct.
» Je suis très d'accord avec Elisabeth sur le fait que les personnages féminins soient très forts. Mais enfin, je veux dire que le film se veut féministe. De toute façon, c'est un film politique à fond, là, pour moi. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il échoue à le faire pour différentes raisons. Il a voulu faire des personnages féministes, mais à vouloir le faire, je pense qu'il passe par les mauvais moyens. Et parfois, j'ai l'impression que ça dessert le propos, là. Je pourrais discuter des heures là-dessus, mais... Par exemple, le fait que Rey n'ait pas l'entraînement, le fait que Rey, apparemment, ne sorte de nulle part. Mm-hmm. Pour moi, ça la décrédibilise plus qu'autre chose. J'aurais préféré qu'elle ait un pur apprentissage, qu'elle en chie comme Luke Skywalker, qu'elle y arrive encore plus. Ouais, bah, j'aurais aimé.
Non, c'est ça, mais ouais. C'est justement, c'est le film de la Jedi, c'est... juste pour nous dire que les méthodes anciennes ne fonctionnent plus, puis c'est pas comme ça. Mais je pense que la représentation féministe, c'est pas nécessairement la représentation unique d'un seul personnage, c'est la multiplication des représentations, fait que la diversité. Mais
c'est pourquoi on en a parlé, on en a parlé aux Amazones, mais il y a un article qui a été viral, qui a été super intéressant à lire, puis qui m'a vraiment fait du bien. En fait, moi, je suis sortie, tu m'as pas posé la question si j'avais aimé le film ou non, parce que, en fait, je suis sortie du film en disant, je sais pas comment je me sens, parce que tout le long du film, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me tapait ses nerfs, c'était désamorcé après. Okay. J'étais comme, ça, ça n'a pas de bon sens, puis ça se peut pas, puis c'est pas logique. Puis à un moment donné, j'ai ah, je m'attendais pas à ce que ça s'en est là. Puis là, j'étais comme...
Tu veux me donner un exemple, s'il te plaît?
Ben, un super bon exemple, la scène de la force. Justement, quand il explique la force à Ray, puis j'étais comme, c'est super quétaine. Le dialogue est pourri. Genre, j'étais comme, ça se peut pas. Mais justement, par la suite, il l'a viré en faisant, je vais te montrer à quel point c'est ridicule de genre t'expliquer ça avec... des grandes philosophies, puis genre, regarde la force, est-ce que tu sens la force? Ah oui, je sens la force. Je trouvais ça tellement gros, mais c'est désamorcé après.
C'est très drôle d'ailleurs comme scène.
Mais j'avais trouvé ça super, justement, puis c'est toute la logique avec Po, que j'étais comme, tu me gosses, Po, puis là, finalement, à la fin, c'est Po. Hey, Po, c'était pas correct comment t'agissais. Fait que j'étais comme, ah, tu vois, ils ont désamorcé ça aussi. Puis Holdo, que j'étais comme, à sort de nulle part, Léa, il fait confiance, puis le film veut clairement nous faire sentir qu'il faut qu'on se rebelle contre elle, mais finalement, elle a raison, puis à la fin, on la dépeint comme une grande héroïne qui a, si veut pas, qui a été à bain des batailles que Poe a pas vu, puis comme pour vrai, elle a été capable de faire des choses exceptionnelles pour la rébellion, puis c'est juste pour ça que, c'est pas juste pour ça, mais c'est entre autres pour ça, dis-je, que Léa lui fait confiance. Fait que tu sais, ces choses-là ont été désamorcées. Fait que je suis sortie du film mitigée en me disant, j'ai passé la moitié du film à me fâcher, puis la moitié du film à être satisfaite. Fait que là, je suis comme, je sais pas comment je me sens, mais plus je lisais, plus j'étais comme, ben, je pense que finalement j'ai aimé ça, et dont ce qu'on parlait ce matin, j'ai besoin d'une deuxième écoute pour être plus objectif peut-être, puis pour voir si les choses qui me tapaient sur les nerfs me retapent ses nerfs aussi, pour prendre tous les commentaires qui ont été faits ce matin par rapport à la musique puis tout ça. Mais l'article, j'y reviens, qui a été super intéressant à lire, c'est que une théorie qui disait que le véritable vilain de Last Jedi était la masculinité toxique, et que toutes les représentations, que ça soit de Snoke, que ça soit de Kylo Ren, de Poe, même de Finn, qui a des représentations de comportement masculin que beaucoup de féministes dans les dernières années ont décrier, on dit ça va faire, puis c'est pas vrai que c'est juste comme ça, puis tout ça. Et là, on a fait un film, le film censé être le plus populaire de l'année, qui parle aux petits gars, puis on leur a dit, voici des modèles féminins forts, mais voici surtout des gens qui se font remettre à leur place, puis c'est correct.
Absolument.
Et ça m'a fait du bien de lire ça, parce que je me suis dit, ah, c'est le fun, et ça l'a fait du bien à la jeune fan de Star Wars qui n'avait que des modèles masculins, et des Leia, bien que j'ai apprécié la scène, mais des Leia en costume aussi affriolant, c'est tout ce qu'on avait, tu sais. Et là, ben, on avait quelque chose de plus grand, et c'est le fun.
Je pense que, pour faire du pouce là-dessus, dans un autre angle peut-être, je pense aussi qu'il est temps qu'on réalise que la franchise Star Wars actuelle n'est plus pour nous. C'est fait pour les enfants, Star Wars aussi, tu sais. Puis nous, on essaie beaucoup de ramener ça à ce que nous on connaît, puis de ramener ça à, oui, mais avant. Puis ouais. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on commence aussi à comprendre qu'ils ont rebooté cette franchise là pour être capable de revendre des jouets à des kids, là. Ben, tu sais,
ouais, des Porgs, des Chewbacca.
Oui, oui, exact. D'ailleurs, je vous conseille fortement de regarder sur Netflix. Ça s'appelle Toys That Made Us. Le premier épisode, il est sur les jouets dans Star Wars, puis il explique très clairement, en fait, que l'industrie des jouets de Star Wars est deux fois plus profitable que les films.
C'est le cas pour Marvel aussi c'est la compagnie 100%,
c'est pour ça que des films qui sont pas, en fait, qui sont pas rentables au niveau du box-office vont continuer à être produits.
Les Transformers, par exemple.
Exactement.
Puis c'est ça, mais ce que tu disais, justement, que ce soit des bonnes représentations pour les jeunes, c'est juste. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi maintenant, quand que nous, on commence à penser à la manière que nous, on voit la force, ou la manière que nous, on voit tel personnage, parce qu'avant, puis toutes les interrelations de ces choses-là, faut aussi commencer à le voir peut-être avec l'œil du kid. Puis ça, c'est dur à faire. Moi, je l'ai vu quand je suis allé voir Star Wars, il y avait plein d'enfants autour, puis je voyais genre l'émerveillement quand ils voyaient, mettons, des nouveaux personnages ou des nouveaux, tu sais, je pense, les nouveaux petites créatures,
les porgs.
Les porgs, ouais, c'est ça. Les porgs, là, qui ont fait d'ailleurs pas l'unanimité, disons. J'ai lu plus qu'un post Reddit sur la haine pour les porcs.
Dans mon cœur à moi, ils font l'unanimité.
Ben, moi, en tout cas, puis tous les kids, ils ont trippé.
Ben oui, il y a quoi?
Le message, c'était cute, puis c'était correct.
Il y a le message pour les droits des animaux.
Ouais. Ouais. Le Chewbacca qui devient végétarien.
Oui.
Non, tout est parfait. Ben, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Ben, à mon avis, c'est incontestable ce que tu es en train de dire avec la scène finale.
Oui.
La scène finale est un est comme non, n'oubliez pas qu'on est juste c'est deux enfants qui regardent un enfant avec des petits jouets raconter une histoire puis tu sors dehors, puis tu regardes les étoiles, puis tu fais semblant que t'as une épée dans les mains. C'est ça.
C'est ça.
C'est ça. Ça y a pas, tu peux broder là tous les effets spéciaux du monde autour. C'est ça là.
Ouais, clairement.
Puis de le finir plus que de commencer le film de cette manière-là, c'est
ça l'ouvre.
C'est élégant.
Ça, là, c'est ouais. Ça, exact. Élégant, c'est le mot. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est comme c'est, it was all that. Ouais. Mais élégant, c'est oui. Ouais, ça remet l'espèce de pouvoir à l'interprétation que, tu sais, peut-être qu'au final, l'auditeur est trop stigmatisé dans ses connaissances de, tu sais, c'est ça qui a été, le backlash pour épisode 1, 2, 3, c'était essentiellement ça. Comment ça se fait que Obi-Wan peut dire ça quand il sait qu'il y a ça? Comment ça mm-hmm. se fait que lui est là pendant que lui est supposé? Puis t'es comme, OK, là, ton encyclopédie est trop chargée, là. Là on va ouais, mais... couper là-dedans. Puis on va laisser un enfant de 8 ans triper. Là.
Mais en même temps, faut pas, si on se dit que c'est pour les enfants, on s'entend pour se dire que le débat moral qui est abordé dans Star Wars, où les péripéties sont beaucoup plus intéressantes, je crois, pour des enfants qu'un blocage commercial.
Oui, un de moi, c'était terrible pour ça.
Oui, non, c'est surtout ça, tu sais, que je veux dire, c'est des enjeux dont on se fout éperdument, qui servent à rien, puis qui alors que justement, là, on parle de, je lisais un article récemment sur le comment qu'on mettait l'âge pour écouter un film, puis il disait valait mieux mettre un film, même un film hyper violent, s'il fait la démonstration d'une réflexion morale, on peut baisser l'âge, alors qu'un mm-hmm. film qui n'en fait pas devrait comme continuer à être 16, 18 ans et plus, pour être sûr que justement, ben si c'est un film qui te questionne puis qui te dit il y a le bien puis il y a le mal, ce qui même si le film n'est plus aussi manichéen qu'avant, il y a quand même ces questions là parce que justement les gens se borne à l'intérieur des films de Star Wars à dire non mais nous on fait bien ça mm-hmm. tu sais puis on fait comme oui mais on se trompe aussi puis on se trompe puis on va faire des erreurs des fois qui ont des grandes conséquences comme par exemple les erreurs que Poe va poser qui ont des énormes conséquences et que tout ce que tu décides de faire il faut que tu y réfléchisses avant plus loin que et c'est des belles morales puis
oui.
Et c'est tout à fait adéquat que ça soit regardé par des enfants tu sais
oui parce que et encore je trouve que tu t'apportes un très grand point, tu amènes un bon point à la conversation, parce que je trouve que la dans Last Jedi, le raffinement de la réflexion est à un point tel complexe que même moi, j'ai de la misère à être capable de l'intégrer dans mon existence. Je trouve que c'est beaucoup à faire comprendre à un enfant que des fois, tu te trompes. Puis même, des fois, tu te trompes sur le long. Là. Luke, il se trompe longtemps. Puis Luke, il arrive à la fin de son arc à faire, ben, tu sais, je l'ai peut-être pas gagné, mais il va y avoir d'autres gens qui vont venir puis qui vont se battre, puis eux autres gagneront pas non plus. Puis on gagnera pas parce que notre bar gagne pas. Notre bar est là pour s'assurer que le bar qui gagne tout le temps est tenu à ses responsabilités. Puis des fois, le bar qui est habillé en noir, il est fonctionnel, comme on l'a vu dans la trilogie originale, puis des fois, c'est des clowns. Comme on le voit dans la trilogie actuelle. T'sais, des fois, les gens sont habillés, sont imposants, puis ils vont te faire peur. Mais il faut quand même que tu te battes contre eux autres. Des fois, ils sont menaçants. Des fois, ça va fonctionner quand ils vont vouloir te donner une tape sur la tête.
Et en ce moment,
des fois, ils vont crisser le camp.
Mais en tout cas, je veux pas rentrer dans mon grand discours que je fais tout le temps sur le fait qu'on n'est pas en démocratie, mais en aristocratie élective.
Bon, oui,
que là, bon. Blablabla. En tout cas, je suis pas là pour faire pousser mon agenda. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant ce que tu dis parce que en ce moment, on a parlé là, on est super dans l'actualité que bon, là, oui, il y a Trump, mais là, il y a Oprah qui a fait son discours dimanche passé. Puis là, mm-hmm. les gens disent il faut qu'elle brigue la présidence parce que tu sais ça. Et là, on est dans une espèce de logique de spectacle. Alors que là, c'est comme bon, on n'est pas en train d'élire des gens qui ont des compétences en administration, des gens qui ont des compétences en, tu sais, même si c'était super beau ce qu'elle a dit, oui. Là, mais tu sais, on essaie d'élire des vedettes.
Sur un speech de 9 minutes.
Sur un speech ouais, de 9 minutes, ça, ouais. C'est notre présidente. Puis c'est comme... Je veux pas rentrer dans le discours comme de... Mais tu sais, ça peut parler aussi sur le fait que comme, ben, ces gens-là, c'est des clowns. Puis genre, c'est des clowns parce qu'ils font des spectacles. Puis ben, on aime ça regarder des gens qui font des spectacles, tu sais. Puis on va leur donner du pouvoir parce que sont divertissants, tu sais.
Mais c'est ça, mais en termes de subversion, je trouve que Last Jedi nous enlève toute une pelletée, même que moi, j'étais comme, c'est-tu vraiment ça que t'es en train de dire, là? Mm. Parce que, bon, c'est ça, moi, durant le temps des fêtes, j'ai réfléchi beaucoup à quel genre de fille que je veux que ma fille devienne. Puis là, c'est comme, immédiatement, ça a été, c'est qui les modèles, c'est que je vais aller chercher autour de moi, que je fais, comment ces personnes-là ont été élevées, comment est-ce que je suis capable d'élever ma fille comme eux autres pour finalement avoir les filles, t'sais, avoir ma fille comme les filles que j'aime côtoyer, t'sais. Ben, c'est qui les enfants qui vont être élevés sur ce film-là? T'sais, on a fait beaucoup de chemin sur la trilogie originale, nous autres. On est une génération entière qui a été élevée dans ça.
Considérant, mettons, moi, c'est mes parents qui ont été élevés aussi là-dessus, donc ça fait, je suis la deuxième génération.
C'est ça, puis on propose non pas autre chose, la déconstruction totale de ce modèle-là. Il y a vraiment de quoi, puis surtout, c'est ça, si on aligne ça à le film est fait pour les enfants, puis il est en train de te présenter un modèle extrêmement complexe de qu'est-ce que c'est le manichéisme. Tu sais, j'ai été très, très impressionné. Ben, ma fille l'a vu avant moi, pour vous dire toute la vérité. Elle a été voir le film, puis...
Et elle ne t'a rien dit vous gâcher.
Non, c'est ça, c'est... Ben, d'où mon introduction. Ben, je pense pas, non, mais d'où mon introduction, j'étais comme émerveillé que même une petite fille de 7 ans était comme, non, on laissait papa rien. Absolument rien dire. Mais je trouve ça... Je ne sais pas comment il va continuer. Je ne sais pas comment il va survivre aux 10, aux 20 ou aux 30 prochaines années, ce film-là. Mm. Notamment dans le fait que, oui, c'est ça, il est très ancré dans la politique contemporaine, mais aussi qu'il propose un truc que ça prend pratiquement une vie pour être capable d'arriver à comprendre ces trucs, ces choses-là.
Mais c'est ancré dans le contemporain, mais c'est intemporel aussi, comme questionnement, le bien et le mal, oui, mais même si je vais dans des questions politiques plus précises, on l'a mentionné un peu ce matin brièvement, mais la scène dans le casino avec Benicio del Toro qui dit, ben gars, nous on vend des armes aux gentils, puis on vend des armes aux méchants. Ben les guerres, c'est ça, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des guerres en vendant des armes. Il y a comme, le manichéisme c'est complètement éclaté là-dedans, puis c'est une question politique qui, oui, contemporaine, mais ça existait avant, puis ça va probablement revenir après.
On parlait de cette scène-là en disant justement qu'on sort complètement du modèle des méchants et des gentils parce qu'on a des gens qui profitent de la guerre. Et que là, ça, c'est. Est-ce que c'est. Qui sont ces personnes-là? Ils prennent pas de parti. Ils font juste naviguer à travers tout ça. Et c'est ce que Benicio del Toro fait. Il dit, je vais aller au plus payant. Fait que là, c'est le capitalisme.
Même
qui devient...
ça, je veux dire, même les gentils sont pas super gentils dans le film. Même le plus gentil, Luc, est supposé, mais c'est pas qu'il est méchant, mais encore lisse un peu.
Puis c'est pas nouveau, hein, c'était déjà dans Clone Wars. Je sais pas si vous avez regardé Clone Wars, qui était à bien des égards mature pour une dessin animé pour les gamins. Il y avait à un moment une faction que Obi-Wan rencontrait qui vendait aux plus offrants aussi. Là. Ben, les questions étaient déjà là, je trouve.
Dans les prequels aussi, il y avait un peu cette question-là avec les clones.
Mais les prequels étaient extrêmement politiques. Moi, je trouve qu'ils abordaient des questions vraiment intéressantes. Mais je me surprenais à me dire, j'ai l'impression que je suis pas de leur côté là. La République a fait des trucs qui me paraissaient vraiment aberrants parfois. Et je trouve que le manichéisme était déjà un peu éclaté dans le prequel.
Mais que là, ils l'ont juste.
Et finalement, Anakin, s'il se rebelle, c'est parce qu'il considère que la République fait aussi n'importe quoi et qu'il y a des trucs qu'elle lui cache, il y a des trucs que la République a foiré aussi. Yoda, il a échoué aussi, je veux dire, c'est comme Luke.
Ben, comme Luke a échoué pour Kylo.
Oui.
Aussi. C'est ça, il y a vraiment un. Et c'est là où j'étais très intéressé dans le dialogue parce que les gens qui n'ont pas aimé le film, je me demandais si c'est ça qu'ils n'avaient pas aimé. C'était le fait que...
Le traitement de lui, quoi.
Oui, ou le traitement des héros.
Ouais, moi, ça m'a marqué vraiment. Le traitement de Luke, je trouve qu'il est catastrophique. Mais... Je comprends l'intention, mais je trouve que ça colle pas avec ce qu'est Luke intrinsèquement, en fait.
OK.
Ouais. Je trouve que c'est trop gros, en fait. C'est-à-dire que Rian Johnson a voulu le faire, et pour le faire, il a envoyé bouler tout ce qui existait avant, quoi. Il s'est dit, je vais faire un Luke détruit, si c'est le cas. Ouais. Mais les explications sont un peu... Je sais pas, je trouvais ça... Mais le fait qu'il veut tuer son neveu.
Le scénario était vraiment mal écrit, fait que ça l'aide vraiment pas à l'explication de tout.
Mais je pense que c'est aussi le set, là. Parce que un problème dont on n'a pas parlé, c'est le changement de réalisateur. Et clairement, Johnson, il s'est dit, Abraham, ça fait des trucs que je déteste. Snoke, c'est sûr, j'ai vu une interview de lui où il disait ça. Snoke, il était pas intéressant, donc il l'a buté. Et c'est pour ça que je pense qu'il va rien se passer dans le 9. Et puis, il y a des trucs vraiment qu'il s'est dit, je vais dégager ça m'énerve. Quoi. Oui, et Phasma, c'est possible aussi d'ailleurs.
Oui ou non, en fait, parce que si c'est J.J. Abrams qui réalise le prochain.
Oui.
Fait que s'il y a comme un combat de coq,
apparemment, en coulisses, il y a un combat de coq, vraiment. Donc le 9, je suis super curieux, mais je pense qu'ils vont être obligés de joindre le bordel entre le 7
mais
et le 8.
Je pense que ça peut faire des trucs vraiment intéressants. Faut par voir. Exemple, c'est comme si tu construis. J.J. Abrams a construit quelque chose, Rian Johnson a comme, foutu le feu dedans, puis après, J.J. Abrams va falloir qu'il reconstruise. Quelque chose d'autre à partir de ça.
Donc, le 9 peut être potentiellement très intéressant. Faut rester curieux. Ouais.
D'une manière ou d'une autre.
C'est que
ça soit comme tout rafistolé d'un même maître, ça va être extraordinaire. Que ça soit comme un espèce de d'énorme crépuscule horrible, ça va être extraordinaire aussi. Non, le 9 risque d'être
comme... Ça fait un peu comme un cadavre exquis où comme tu te passes ouais, le papier, puis là après, il faut que tu finisses la phrase, puis il y a quelque chose.
Mais je pense qu'il faut qu'on... C'est un sujet que je maîtrise un peu moins, mais je pense qu'il faut quand même en parler, parce que j'écoute parler du traitement de Luke, puis je trouve que Luke est un personnage autour duquel on a beaucoup extrapolé de par toute cette espèce de l'avènement des Grey Jedi, puis on va ramener les Grey Jedi, puis tout ça. Et là, les gens disaient, avant que cette sorte, ben c'est ça, donc Luke, probablement que entre les deux, on va apprendre qu'il a fait l'académie des Grey Jedi, puis que là, comme vraiment, il y a plus la différenciation, ben il y a une différenciation, mais on a appris à aligner tout ce qui est du côté lumineux et obscur de la force. Puis là, par la suite, on nous dit, Luke est pas là. Ah, ben Luke a dû aller faire ça ailleurs. Ah, mais Luke, finalement, son académie, puis c'était quoi son académie? Mais c'était une académie qui était basée sur les anciennes, les traditionnelles. Mm-hmm. Et là, il est sur une espèce d'île mystérieuse où on nous dit, les deux sont là, les deux doivent être présents et les deux seront toujours présents. Fait que là, les gens disent, bon, ben là, c'est ça, les Grey Jedi, ça va être l'avènement de Kylo puis de Rey. Fait que là, tout le long du film, je me suis dit, bon, ben, ils vont peut-être s'unir, puis il y aura peut-être pas de méchants dans le prochain film, mm-hmm. tu sais. Ça aurait été vraiment intéressant, je trouve. Il y a pas de méchants, on essaye de rebâtir quelque chose. Bon, ben, il y aurait peut-être eu un méchant, mais ça aurait pas été ni Kylo, ni Snoke. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant,
ça
du moins.
Intéressant, ouais.
Mais en même temps, c'est encore possible, ça.
C'est encore possible. Mais c'est
pas intéressant pour un enfant, ça.
Non, mais non. Okay.
C'est pas l'objectif de ces films-là, bon, de faire ça. Mais je comprends que ça serait cool pour nous, genre, de voir... Ah, oh, il me semble que dans le realm de Star Wars, que genre, ils fassent ça de cette manière-là, ce serait incroyable.
Mais ça, peut-être que le Grey Jedi qu'on s'attendait à se voir en début de franchise va juste être à la fin, là, comme... À la fin, il va avoir ça, ou à la fin, ça n'existera plus, puis on va juste passer à autre chose.
Ça n'a pas sa place, un Grey Jedi, dans l'univers tel qu'il a été construit maintenant, parce que il n'y a pas de place.
Ben, Benicio Del Toro, c'est un personnage que j'ai trouvé le plus intéressant slash neutre de... Dans le film. Il est vraiment chaotique neutre. Il a pris, tu sais, c'est quoi l'occasion qui se présente? Je la prends. J'ai trouvé ça vraiment comme.
Plus offrant,
c'était très cool. Puis lui, j'espère qu'on va le revoir aussi dans le futur parce que je pense qu'il va avoir un rôle autant négatif que positif à jouer. Puis j'espère qu'il joue toujours cette ligne-là pendant le reste de la franchise.
Il y a quand même une représentation, tu sais, il représente un peu.
L'argent.
Non, oui, mais il représente aussi. J'ai un blanc de mémoire qui me gosse. Lando. C'est la trahison de Lando, ouais. Mais tu sais, comme là, c'est avant, c'était parce que j'avais peur de Darth Vader, là, c'est parce que j'avais besoin d'argent, puis je m'en fous un peu, tu sais.
Elisabeth, t'as raison, ouais. Et je pense que c'est pour ça que dans le 9, il va devenir gentil, je pense. Ça va être très cliché.
Peut-être.
Il va devenir gentil.
Mais surtout, c'est J.J. Abrams qui le fait.
En plus.
Soit ça, ou soit que c'est un Dark Han Solo aussi. Parce qu'on peut aussi faire une lecture informée, là, avec nos connaissances de l'univers, qu'il y a un double de tout le monde. Et que tout le monde revient, mais revient dans une version soit antithétique ou soit en continuation. Puis bon, ça pourrait être juste, parce que c'est essentiellement ça qui s'est passé aussi avec Han Solo. Au début, c'est comme, combien tu payes? T'sais, on va le faire. Sauf qu'Han Solo a fini par prendre la voie du mérite, puis là, peut-être que le personnage de Benicio Del Toro va se faire sacrer un uniforme.
Peut-être. Ben, il est déjà...
Ben, il y a déjà un uniforme.
Il est déjà comme pas mal un uniforme. Mais, ouais.
Mais je pense... Mais c'est intéressant s'ils sont en double, mais est-ce qu'ils sont en double dans l'opposition ou juste...
Ben oui, parce que... C'est ça. Non, mais le
l'équilibre, ça.
C'est ça.
Ah, tu veux dire un uniforme du First Order?
Oui, exactement.
Ah,
oui.
C'est un commandant. Enfin, il a un rôle précis, non, je crois, dans le premier ordre, je sais plus.
C'est qu'il y a... Je veux dire, quand Snoke meurt, ça présuppose quasi instantanément que Luke va mourir. T'sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout l'univers complet de Star Wars, si je pars sur comme le tout, depuis le début, je suis très fier de ça, je l'assume. C'est la personne qui va amener l'équilibre à la force. Puis que les gens l'aient pas... Le grand désastre de la franchise, c'est que les gens n'aient pas compris que c'était un avertissement. C'était pas un appel à l'espoir. T'sais. La personne qui va amener l'équilibre à la force, c'est la personne qui va s'assurer qu'il y a comme un de chaque bord, forever.
Ouais.
Puis c'est ça que ça fait, essentiellement, Star Wars. À chaque fois qu'il y en a trois d'un côté, ben, il y en a un qui en plante trois, il y en a un qui en plante deux, excusez. Et on revient à l'état. C'est ça. Puis là, je viens me connecter à ce que tu dis sur le fait qu'il y aura peut-être pas de vilain dans le troisième, parce que le vilain, c'est cette cyclicité-là. Puis le Grey Jedi, c'est un peu la neutralité. Le Grey Jedi, c'est la fin de cette opposition-là.
Ouais.
Donc, essentiellement, la fin de la franchise. Faut qu'il y ait un gros chevalier blanc pour un gros chevalier noir, ou une cavalière blanche pour une cavalière noire, faut qu'il soit là.
Mais c'est parce que là, on est encore dans une dynamique que l'univers de Star Wars doit opposer deux. Là, oui. Je parle en rythme de... Je parle en role-playing, là, mais tu sais, comme il y a deux classes, il y a les Sith puis les Jedi, puis on les oppose tout le temps, mais tu sais, on pourrait très bien avoir des films de Star Wars qui opposeraient des bounty hunters, puis des politiciens, puis tu sais, je veux dire, des ambassadeurs, puis tu sais, il y a plusieurs... L'univers de Star Wars est plus grand que la seule question de la Force,
c'est
mais
ce
la Force...
C'est ce qu'ils ont fait avec Rogue
One, ouais. Mais c'est ça, puis tu sais, je veux dire...
C'est un film de guerre, hein.
Voilà, puis ça reste que... tu sais, on va bientôt avoir l'histoire de Han Solo, oui. Qui va sortir, je pense, c'est en Noël prochain. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme, il y a d'autres affaires que Star Wars peut nous apporter. C'est un univers beaucoup plus grand, puis la Force, c'est une religion qu'on connaît. Il y en a peut-être même d'autres, mais c'est une religion qu'on connaît dans cet univers-là. Dans un livre de règles, de jeux de rôle, t'as une partie du lore, puis t'as deux classes qui s'opposent continuellement, puis les autres qui sont en plan en arrière, mais tu sais, on pourrait très bien faire autre chose.
Non, je suis d'accord, il y a plein d'autres histoires que tu peux raconter, mais fondamentalement...
Le canon, ouais.
Tu sais, quand tu regardes...
C'est bien contre le mal.
Quand tu tranches le film, tu fais, OK, ben, il y a Hux, il y a Leia, il y a Rey, il y a Kylo Ren.
Il y a Phasma, il y a Holdo.
Ouais, il y a Snoke, il y a Luke. Tu sais, c'est comme... ça tranche directement. Il y a un miroir dans ces films-là.
Ouais.
Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu peux raconter l'histoire d'Han Solo. Puis Han Solo n'aura pas un double. Mais tu peux voir Benicio del Toro comme le double. Tu sais, quand tu fais la constellation, il y a un équilibre qui est très précaire dans l'univers de Star Wars. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive d'un côté, ça se passe de l'autre côté.
Mm.
Puis c'est ça que Luke constate. Puis c'est là où il y a la... Tu sais, Luke fait, ben, moi, il faut que j'arrête comme ça.
Ben c'est le moteur narratif, dans le fond. Ces oppositions-là doivent se rétablir continuellement. Fait qu'on enlève un, on continue. Puis c'est comme ça que les histoires avancent.
Oui, aussi. Ouais. Aussi. Mais celui-là, il est vraiment comme... Tu sais, c'est pas...
Mais c'est fondamental.
Exactement. C'est pas Mark Wahlberg qui découvre un autre Volkswagen, tu sais. C'est juste comme, ah, OK, ben on va avoir un autre 6 films, all right? Let's go for it, là. Non, c'est que... Il y a une pièce blanche qui disparaît de l'échiquier, il y en a un autre, puis on va... Mais effectivement, on va pouvoir raconter l'histoire... il va y avoir un Porg Amazing Adventure, chapitre 2.
Yes!
Il va y avoir un spécial de Noël. L'app va sortir bientôt, c'est sûr.
Oui, c'est ça, puis il va y avoir un spécial de Noël aussi avec les Porgs, puis qui va se passer sur la planète, pas des Wookiees, parce que là...
Peut-être qu'il ramène
déjà sur
Cachier. Non, pas ça!
En tout cas, il y a un épisode spécial Obi-Wan Kenobi, ça j'ai hâte par contre.
C'est-tu confirmé ça?
Apparemment, et en plus, Ewan McGregor est partant. Donc,
Oui, parce qu'il
est
quand même.
Mais c'est ça, depuis quelques jours, il y a des rumeurs parce que là, ils l'ont vu avec une balle, fait qu'ils disent ça y est, ça y est, c'est Obi-Wan.
Mais ça va être quoi? Ça va être l'aventure de Obi-Wan qui apprend qui s'en va vivre sur Tatooine, qui subit l'Empire, genre.
On sait pas, mais c'est un spin-off. Il y en a qui pensent que c'est lié à l'histoire de Darth Maul qui est plus dans Clone Wars.
Ah oui, mais.
Là, ce serait assez dingue, jusqu'à ce qu'ils sur Tatooine, en fait.
Si on continue dans les ouvertures vers le futur, pour revenir un peu à ce que tu disais au début sur Kylo Ren,
The best.
Moi, Kylo Ren, il m'intéressait vraiment pas dans l'épisode 7. Je le trouvais justement très emo, très... c'était jeuneau, tu sais, crise d'ado plate, là. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment nul au début. Mais je pense que c'est... Tu sais, au bout du compte aussi, tout ça va être lu comme une trilogie plus tard. Tu sais, comme ouais. Nous, maintenant, on apprécie la trilogie, mais au moment où est-ce que les films sortaient, tu voyais juste un à la fois toutes les quelques années. T'sais.
Ouais, puis le monde sortait puis il chiait sur Return
of the Jedi. Je pense que si on le regarde dans une trilogie entière, si on faisait genre comme une journée de 9 heures de Star Wars, je pense qu'on verrait un Kylo Ren, ouais, c'est ça, en pyjama. On verrait un Kylo Ren qui part ado, vraiment emo, stupide, puis il tue son premier père. Qui est Han Solo. Ensuite, dans le deuxième film, OK, il vieillit un peu, il y a un petit peu plus de tâches, il faut qu'il regagne un peu, justement, aussi de son tonus auprès de Snoke. Fait qu'il tue son deuxième père, qui est Snoke. Puis là, maintenant...
Ouais, ça va faire Oedipe, là,
Captain. Il n'y a plus de papa. Fait que là, c'est lui le papa. Puis là, c'est lui qui va... Tu sais, je pense que... L'autre affaire aussi qui m'excitait beaucoup avec Kylo Ren dans le 1, la seule scène que j'ai vraiment aimé... Non, il y en a eu deux. Celle-là, parce qu'il arrête un laser, j'étais comme « Oh, wow! Ouais, » That's cool. La deuxième affaire que j'ai vraiment aimé, c'est quand il perd un peu la boule, genre dans l'ascenseur.
Oui!
Puis il commence à juste slasher les murs.
Ah.
Là, j'étais comme « Oh, wow! Ça, c'est hot! » Parce que là, tu sais, où est-ce que Darth Vader avait vraiment juste une surpuissance qui émanait de lui, qui faisait que tout le monde s'agenouillait, puis tu sais, il perdait jamais la boule, là. C'était genre tout contrôlé. Lui, à tout moment, il peut genre devenir KO, puis là, il commence à exploser, puis il se fâche, puis là, il pitch tous nos lasers sur lui, tu sais, genre...
Oui, c'est ça!
Ça, je pense que dans le neuvième, ça va être incroyable voir un Kylo Ren qui va juste genre casser des gueules un peu partout.
Oui, la scène du masque, quand Snoke qui dit « Tu n'es qu'un enfant avec un masque, si tu ne vieillis pas... » c'était... J'ai tellement aimé ça, là. C'était tellement beau, puis de le voir genre comme tout détruire, justement un peu un rappel à la scène de l'ascenseur que tu décrivais, là, tu sais. C'était vraiment une belle scène, je trouve, puis c'est aussi une scène qui parle, tu sais, qui c'est méta encore une fois, puis ça parle au spectateur, puis c'est comme pense à autre chose, puis ça parle à les haters, ça parle aux trolls, puis ça parle comme t'es un enfant avec un masque, t'es un enfant qui se cache.
Je suis content que vous soyez tous en train de vous rallier à moi en disant que c'est le meilleur personnage. Parce que c'est vrai, il y a...
J'ai pas dit ça.
J'ai pas dit ça non plus.
Ça sent rien. C'est qu'il reste deux minutes, là, vous êtes comme moi, non?
C'était ça l'entreprise de l'émission, c'est juste nous convaincre.
Ouais, c'est ça, Kylo Ren.
C'est pas encore assez mauvais, moi. J'espère que dans le 9...
Mais en tout cas, ils ont mis la... Ils ont clairement mis la trame pour que... ils mettent un personnage qui va nous surprendre par sa méchanceté. D'autant plus aussi qu'il a ouvert son cœur tranquillement puis il s'est fait shut down encore. Puis je pense que là, c'était comme la dernière fois qu'il allait s'essayer, genre, je pense la dernière fois qu'il allait essayer d'avoir un lien avec un autre humain.
Surtout qu'il avait raison.
À partir de maintenant, puis à partir de maintenant, ça va juste être... je décide, je fais ce que je veux.
J'ai une amie qui est pas ici en ce moment, mais Tania, qui me disait, j'ai tellement aimé, une autre fan de Star Wars, qui disait, j'ai tellement aimé lorsque, tu sais, un Sith, une personne de l'Empire, a tendu sa main et a fait « Please ». C'est genre « S'il te plaît, joins-toi, s'il te plaît ». Il y a quelque chose de, tu sais, justement, là, tu sais, il est quand même compliqué.
Très compliqué.
J'ai hâte de toutes les réécouter d'une shot, les trois. Là, ça va être très, très satisfaisant, je pense.
Il est compliqué parce qu'à lui seul, il donne raison au fait que les Jedi, c'est des trous de cul. Solide. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il se fait réveiller en plein milieu de la nuit par son maître qui essaie de le tuer. Après ça, il est en la
main. Il essaie pas de tuer. C'est ça, là, c'est un problème.
Concours de circonstances. Whatever, quand même.
Non, mais il allait pas le tuer. Genre, c'est un malentendu.
Exactement.
Puis on parlait de masculinité toxique. Genre, j'ai mal compris. Je vais tout détruire. Puis je vais tuer tout le monde.
Non, mais là, enfin, il y a quelqu'un qui vient le voir. Puis qui dit non. Tu sais, on est capable de se parler cœur à cœur. Puis comme tu dis, il envoie la main. Il dit please. Puis elle dit non. Fuck that, man.
C'est chien, là.
Non, mais il dit pas on va construire quelque chose ensemble. Oui. Il dit tu vas. Non,
l'univers à deux, il dit.
Oui, mais c'est ça. Il dit j'ai mon projet de. Ray a clairement aucune intention de vouloir diriger l'univers, là. C'est clairement pas son arc des personnages. Fait qu'elle avait juste dit ben moi, c'est pas. J'ai pas envie de diriger l'univers avec toi.
Elle dit non. Elle a tort. Non. C'est tout, elle aurait dû diriger l'univers.
Responsabilité, diriger un univers.
Ah, c'est vrai que c'est quand même
costaud. Je voudrais pas avoir ça sur les épaules.
Palpatine, il avait quand même quelque chose sur les épaules. Ça l'a vieilli d'ailleurs, hein, vraiment.
Ben, vraiment beaucoup. Là.
Non, sérieux, je pense que il reste quoi? C'est deux ans? On est jusqu'à Noël 2019?
Pour la trilogie, oui.
Pour que vous puissiez balancer de mon bord.
Oui.
Puis constater Kylo Ren.
Jamais.
Donc, merci énormément à tout le monde. Merci pour un excellent retour en ondes. C'est vraiment... Puis je vous dis merci aux auditeurs aussi, aux auditrices, auditeurs et tout. Merci énormément. Hey, Megan, Régis, Elisabeth, y a-tu quelqu'un qui voulait...
finir avec une autre ouverture? Non, ouais? Non, je peux pas faire mieux que ça. J'espère voir Kylo Ren tout exploser.
Ah oui, OK. on va aller écouter Toro y Moi avec Labyrinthe parce que c'est une très bonne chanson. Bonne semaine tout le monde.
Je peux pas faire mieux que ça. J'espère voir Kylo Ren tout exploser.
Ah oui, OK. On va aller voir...